Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Asie vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croient et qui restent pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le journal de ce dimanche 15 octobre 2023 qui diffuse depuis Téhéran, capitale iranienne. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « Tactique du gentil flic, méchant flic, pourquoi l'armée israélienne évite-t-elle d'entrer dans la bande de Gaza ?» Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le monde musulman a le devoir d'aider le peuple palestinien, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei, leader de la révolution islamique, à l'occasion d'une rencontre avec le cheikh nigérian Zakzaki. Téhéran qualifie de crime de guerre le déplacement forcé des Palestiniens et appelle l'ONU de retirer le nom d'Israël de cette organisation. Et puis, les manifestations en soutien à la Palestine dans plusieurs villes françaises malgré l'interdiction. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré qu'aider le peuple palestinien était le devoir de chaque individu dans le monde islamique. L'Ayatollah Khamenei s'exprimant samedi lors d'une réunion avec le chef du mouvement islamique au Nigeria, Cheikh Ibrahim Zakzaki, faisant référence à l'opération Déluge d'Al-Aqsa lancée par les forces de la résistance palestinienne contre le régime d'apartheid israélien, a déclaré qu'aujourd'hui, l'une des manifestations de la puissance de l'islam réside dans les problèmes qui se produisent en Palestine. Exprimant ses regrets face aux souffrances des Palestiniens suite aux crimes du régime israélien, le dirigeant a déclaré que les mouvements antisionistes palestiniens mèneront à leur victoire totale. Faisant référence à la formation du système islamique en Iran depuis la révolution islamique en 1979, le leader a déclaré que la révolution islamique est devenue plus forte de jour en jour depuis sa création et qu'elle le deviendra également à l'avenir. Pour sa part, le cheikh Zakzaki et son épouse ont exprimé leur satisfaction sans limite tout en affirmant que les sentiments qu'ils éprouvent sont indescriptibles. Nous espérons qu'avec vos prières et les efforts des musulmans, l'islam se répandra de plus en plus chaque jour, a ajouté cheikh Zakzaki. Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que la situation dans la région ne restera pas la même si les crimes du régime israélien contre les Palestiniens se poursuivent. Hossein Amir Abdollahian a déclaré qu'au Téhéran poursuivrait ses efforts pour mettre fin aux crimes de guerre israéliens et ne manquerait jamais à ses principes de soutien à la Palestine. Il a fait ses remarques lors d'une réunion avec le chef du bureau politique du Hamas hier soir au Qatar. Ismail Haniyeh a pour sa part déclaré que l'opération Déluge d'Al-Aqsa a porté un coup stratégique au régime israélien et que les crimes de guerre perpétrés dans la bande de Gaza montrent sa confusion. Le plus haut diplomate iranien a entrepris une tournée diplomatique dans les pays d'Asie occidentale, à savoir l'Irak, la Syrie et le Liban, et actuellement au Qatar, axé sur les bombardements meurtriers israéliens sur la bande de Gaza. Téhéran qualifie de crime de guerre le déplacement forcé des Palestiniens. Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les complots du régime sioniste visant à forcer les Palestiniens à quitter la bande de Gaza. Dans un communiqué publié samedi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fermement condamné les diverses activités militaires et de propagande du régime sioniste et d'un certain nombre de ses sponsors dans le but d'ouvrir la voie au déplacement forcé du peuple palestinien de la bande de Gaza. Enfin, manifestation en soutien à la Palestine dans plusieurs villes françaises malgré l'interdiction. Malgré les interdictions de la manifestation en faveur de la cause palestinienne, les Français ne quittent pas les rues et scandent des slogans anti-israéliens. Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, et encore plus, c'est une longue liste, les grandes villes françaises qui ont manifesté pour défendre la Palestine et en particulier la ville de Gaza, dont les femmes et les enfants sont sous les bombardements intenses et incessants et sous un blocus total israélien. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Tactique du gentil flic, méchant flic. Pourquoi l'armée israélienne évite-t-elle d'entrer dans la bande de Gaza? Les réactions internationales contre les atrocités commises par l'armée israélienne, la position ferme du front de résistance et l'échec des calculs contradictoires de Tel Aviv et de Washington concernant l'exode forcé des habitants de Gaza ont amené les États-Unis à recourir à la tactique du gentil flic, méchant flic, en demandant à Israël de revenir pour le moment sur sa décision de mener une attaque terrestre contre Gaza. Les médias du régime sioniste ont rapporté que les États-Unis avaient demandé au régime de Tel Aviv de reporter l'invasion terrestre de la bande de Gaza jusqu'à la création d'un passage humanitaire. Cette nouvelle a été diffusée suite à l'annonce faite le 13 octobre par l'armée israélienne qui a fixé un délai de 24 heures pour que les habitants des zones nord de la bande de Gaza se déplacent en toute vitesse vers les zones du sud. Un porte-parole de l'armée israélienne a menacé les habitants de la bande de Gaza en publiant un message en arabe sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter, en annonçant qu'avant le commencement de l'invasion terrestre israélienne, les Palestiniens devraient se déplacer de Beit Hanoun au nord vers Khan Younes au sud. Dans ses déclarations, l'armée du régime sioniste a utilisé des termes démagogiques pour prétendre que ce déplacement des Palestiniens pourrait se réaliser en sécurité et sans aucun dommage. Or, depuis plus d'une semaine, Israël a utilisé divers types d'armes prohibées contre les habitants civils de Gaza. Des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été massacrés sur les routes alors qu'ils essayaient de se rendre dans des endroits plus sûrs. Le massacre des centaines d'enfants innocents en seulement une semaine montre qu'Israël n'a aucun respect pour la vie des civils et ne cherche qu'une occasion pour réaliser son plan de génocide dans la bande de Gaza. En fixant un délai de 24 heures pour le déplacement des habitants du nord vers les zones du sud de la bande de Gaza, Israël cherche à atteindre deux objectifs importants. Premièrement, Tel Aviv veut évaluer les réactions internationales, notamment celles des pays musulmans par rapport à l'éventualité d'une invasion terrestre de la bande de Gaza. Deuxièmement, les dirigeants israéliens se préoccupent de présenter un visage plus humain du régime d'apartheid en prétendant de vouloir épargner la vie des civils. Dans le cadre de ces deux objectifs, Israël cherche en réalité à préparer le terrain à un nettoyage ethnique rapide et complet de la bande de Gaza, la destruction complète du Hamas et la prise du contrôle des territoires qui se trouvent sous l'autorité de la résistance palestinienne. Or, le soutien total de la population de Gaza aux combattants de la résistance est le plus grand obstacle qui existe devant la réalisation de cette stratégie du régime sioniste. C'est la raison pour laquelle Tel Aviv cherche d'une manière ou d'une autre d'expulser les habitants de Gaza en semant la terreur parmi la population afin de pouvoir facilement mettre en œuvre sa politique de la terre brûlée dans les régions contrôlées par le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas. Le régime sioniste essaie de réaliser cet objectif en se servant de plusieurs moyens. D'un côté, la machine de propagande du régime de Tel Aviv, dont le journal Ma'ariv propage de fausses nouvelles de l'entrée de l'infanterie et des unités blindées de l'armée sioniste à l'intérieur de la bande de Gaza. Et de l'autre, l'armée de l'air israélienne continue ses bombardements brutaux et largue des bombes au phosphore blanc interdites par les conventions internationales sur la population opprimée de Gaza. En effet, le régime sioniste essaie de créer un climat de terreur afin d'obliger les habitants de Gaza à quitter le territoire, comme à l'époque de la Nakba de 1948. Il est évident que le régime israélien n'est pas seul dans la mise en œuvre de cette tragédie, car les États-Unis ont fait état de leur ferme décision de se mettre aux côtés des Israéliens sur les plans politiques, militaires et médiatiques. En effet, Washington soutient le régime de Tel Aviv par tous ses moyens et l'encourage à réaliser ce plan inhumain et cruel. Après l'annonce de l'ultimatum de l'armée israélienne, les organisations internationales de défense des droits de l'homme se sont dites particulièrement préoccupées par rapport à la tragédie humaine à Gaza et ont souligné que cette action du régime sioniste était contraire au principe du droit humanitaire international. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé à l'annulation immédiate et inconditionnelle du plan du déplacement forcé de la population civile de la bande de Gaza, en soulignant que cette action conduirait à un désastre humanitaire avec des dimensions inimaginables. Par ailleurs, Josep Borrell, haut responsable de l'Union européenne pour la politique extérieure, a déclaré qu'il était impossible d'accepter le déplacement forcé d'un million de civils palestiniens du nord de la bande de Gaza vers le sud. Malgré les efforts de certains pays occidentaux pour dissimuler les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza, il y a encore des institutions internationales qui continuent à dénoncer les crimes des sionistes. Dans un communiqué, Médecins sans frontières a appelé à l'arrêt immédiat du massacre de personnes innocentes dans la bande de Gaza et a déclaré que le plan israélien d'expulsion des habitants de la bande de Gaza est inacceptable au regard du droit international. Par ailleurs, des millions de personnes à travers le monde ont manifesté dans de nombreux pays en soutien à la population de Gaza et ont essayé de rappeler aux dirigeants israéliens et américains que le génocide et la politique de la terre brûlée leur coûteront trop cher et auront des conséquences incalculables pour les États-Unis et le régime sioniste. En outre, la prise de position d'autres groupes de l'axe de la résistance dans toute la région peut être considérée, selon certains analystes, comme un facteur de dissuasion pour empêcher l'armée du régime sioniste d'entamer une invasion terrestre de la bande de Gaza. Les réactions internationales contre les atrocités commises par l'armée israélienne, la position ferme du front de résistance et l'échec des calculs contradictoires de Tel Aviv et de Washington concernant l'exode forcé des habitants de Gaza ont amené les États-Unis à recourir à la tactique du gentil flic, méchant flic, en demandant à Israël de revenir pour le moment sur sa décision de mener une attaque terrestre contre Gaza. La révélation progressive des crimes sans précédent commis par le régime sioniste à Gaza, perpétrés avec le soutien direct des États-Unis, augmentera dans les jours à venir la pression internationale sur le régime de Tel Aviv. L'OTAN n'est donc pas favorable à la réalisation des projets cruels du régime sioniste, d'autant plus que les événements des prochains jours pourraient déjouer complètement les projets de l'armée du régime israélien.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat du jour.
On va s'intéresser tristement aux évolutions israélo-palestiniennes et les bombardements qui sont en cours dans la bande de Gaza, la mort des civils, des femmes et des enfants dans la bande de Gaza qui est sous blocus total. Les ambulanciers, les secouristes sont en danger, ils sont déjà morts, blessés. On va s'intéresser à ce sujet tout de suite après un petit récit en images. Restez avec nous.
Le massacre des femmes et enfants palestiniens est une tragédie qui déchire le cœur de toute personne sensible à l'injustice et à la souffrance humaine. Ces actes de violence perpétrés contre les civils innocents sont inacceptables et doivent être condamnés par la communauté internationale. Depuis des décennies, le conflit israélo-palestinien a engendré une spirale de violence qui a touché de nombreux Palestiniens, en particulier les femmes et les enfants. Les attaques indiscriminées menées par l'armée israélienne ont causé la mort de milliers de civils palestiniens, dont une grande partie étaient des femmes et des enfants innocents. Les femmes et les enfants palestiniens sont particulièrement vulnérables dans ce conflit. Les femmes, souvent privées de leurs droits fondamentaux, sont confrontées à une violence quotidienne. Elles subissent des humiliations, des arrestations arbitraires et des abus physiques et sexuels. Les enfants, quant à eux, grandissent dans un environnement marqué par la peur et l'insécurité. Ils sont témoins de la violence et de la destruction qui les entoure, ce qui a un impact profond sur leur développement physique et psychologique. Les massacres perpétrés contre les femmes et les enfants palestiniens sont une violation flagrante du droit international humanitaire. Selon le droit international, les civils doivent être protégés en toutes circonstances et les attaques contre eux sont considérées comme des crimes de guerre. Malheureusement, ces principes sont souvent bafoués dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Il est essentiel de reconnaître que les Palestiniens sont souvent les victimes les plus touchées par la violence. Les femmes et les enfants palestiniens sont pris au piège dans un cycle de violence sans fin, où ils subissent des pertes incommensurables. La communauté internationale a la responsabilité de mettre fin à ces massacres et de protéger les droits des femmes et des enfants palestiniens. Les Nations Unies doivent jouer un rôle actif dans la résolution de ce conflit en promouvant le dialogue et en exigeant le respect du droit international. Les États membres de l'ONU doivent également exercer une pression sur Israël qui mette fin à ces attaques indiscriminées contre les civils palestiniens.
Alors, retour au plateau, les émotions sont en comble dans le monde entier, c'est pas exagéré, avec ces images déchirantes. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau par Skype et à distance Alexandre Rouget, écrivain et journaliste français. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les frappes aériennes du régime d'Israël, juste pour donner un bilan toujours provisoire, dépassent 1951 morts à Gaza, des civils, des femmes, des secouristes, des journalistes. Au moins, on a signalé la mort d'un journaliste à la frontière, si je ne me trompe pas, libanaise. Malgré ce bilan qui ne cesse de s'alourdir, les diplomates américains sont défendus d'utiliser certains termes au détriment du régime sioniste. Et on a l'impression que les États-Unis cherchent même à légitimiser ces crimes de guerre et ces morts.
Oui, puisque les États-Unis sont partie prenante de ce conflit, et même depuis l'origine, puisque depuis la création de l'entité sioniste en 1948, ce n'est que le soutien financier, économique et diplomatique des États-Unis qui a permis à l'entité sioniste d'exister. Donc il est logique que, encore à l'heure actuelle, eh bien, la diplomatie américaine persiste dans son hypocrisie, sa lâcheté et sa langue de bois en faisant tout pour minimiser une opération terroriste inqualifiable, voire même pour essayer de la légitimer, ce qui n'a absolument aucun sens et qui n'est fait encore qu'ajouter à la honte et au déshonneur des Américains.
Merci beaucoup.
Bonjour à Maître Dovelet, juriste en droit international et journaliste indépendant, conseiller politique. Merci d'avoir accepté notre invitation, Arnaud Dovelet.
Oui, bonjour à vous, bonjour à l'équipe et bonjour à votre invité. Toujours un plaisir.
Voilà, on assiste au drame, les consultations diplomatiques, les déplacements, les conversations diplomatiques sont multipliées. On a eu Hossein Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne, qui s'est déplacé dans le cadre d'une tournée régionale qui l'a amené en Irak, au Liban, en Syrie. Et des conversations téléphoniques de la part d'autres autorités aussi. Nous avons eu dans les infos un déplacement imminent de Mahmoud Abbas, président de l'autorité autonome palestinienne, vers Moscou. Quelle est alors la position de Moscou? Vous pouvez nous parler de la position de Moscou et Vladimir Poutine?
Écoutez, Vladimir Poutine s'est contenté de rappeler ce que normalement, tout le monde devrait savoir, à savoir qu'il est absolument impensable que les massacres de civils continuent, que cette situation aurait pu être évitée si les Américains avaient exercé leur diligence. Partant de là, que la résolution de la situation passe par l'établissement d'un État palestinien. La question qui se pose, c'est avec quel partenaire discuter, puisque rappelons-nous que dans le cadre des accords d'Oslo, il y avait eu une solution, mais que les protagonistes de cet accord, l'un d'entre eux a été assassiné par des radicaux au sein même du pays qu'il dirigeait, et ensuite son partenaire dans la paix a été lui-même assiégé pendant des années, jusqu'à ce que, quelque part, on se débarrasse de lui, et qu'on favorise une situation où il ne peut plus y avoir de dialogue, puisque il est question avant tout, si on prend en compte l'implantation des colonies, alors même que durant les 5 ans qui suivaient les accords d'Oslo, il aurait dû y avoir non seulement une reconnaissance de l'État palestinien sur 22% de la Palestine historique, mais qu'en fait, du côté de Tel Aviv, il n'était absolument pas question de cela, puisque les actions d'implantation des colonies laissait entendre que c'était une couverture pour le régime de continuer le processus. Et là, je crois que ce à quoi nous assistons cette fois-ci, c'est un peu c'est l'étape suivante. C'est-à-dire qu'en fait, cet ultimatum qui consiste à demander à plus d'un million de personnes en 24 heures de se diriger vers le sud de la bande de Gaza, sachant que il n'y a pas d'électricité, les voies de communication sont complètement détruites, enfin, on ne peut pas se déplacer, il n'y a pas d'eau, ça rend les choses pratiquement impossibles, et on n'entend pas du tout, comme vous le disiez en introduction, des condamnations de la part de la soi-disant communauté internationale sur ce sujet. Et effectivement, ça s'est traduit ce matin par le bombardement indiscriminé d'une colonne de réfugiés. On est encore en train d'évaluer les pertes, mais enfin, c'est un massacre. On assiste à un massacre en direct.
Oui, exactement. On parle, c'est pas exagéré, d'un génocide dans la bande de Gaza. Il y a toutes limites et obstacles pour sauver les civils. Et ils sont même obligés, selon certains dires, de se déplacer dans les endroits qui sont encore pires. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot génocide, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des commentateurs qui l'utilisent. À vous, Monsieur Rouget, Alexandre Rouget, quelles sont les réactions en France? Je sais que les manifestations pro-palestiniennes sont interdites par le gouvernement, mais les réactions du peuple face à ce drame?
Eh bien, le peuple a envie de vomir. Le peuple est fatigué de tous ces mensonges, de ces monstruosités, de l'hypocrisie d'un gouvernement. Hein. On peut dire que le gouvernement de la France, c'est un régime d'occupation sioniste, ma foi, qui interdit au peuple d'exprimer sa parole souveraine. La souveraineté nationale appartient au peuple et réside dans la parole populaire, certainement pas dans les prises de décision infâmes et ignobles d'une poignée de banquiers au aux ordres d'Israël. Hein. Je vous rappelle quand même que l'une des plus ignobles fake news ou fausses nouvelles répandues il y a quelques jours par les Occidentaux résidait dans l'annonce d'enfants, de bébés mis en cage, décapités par les Palestiniens. C'est une information produite par une journaliste d'un média israélien qui appartient à un certain Patrick Drahi. Français de papier, hein. C'est pas parce qu'il a écrit français sur sa carte d'identité que ce monsieur est français. Manifestement, voilà, on a encore affaire à quelqu'un dont l'allégeance appartient à Israël et qui n'a rien de français. Genre, quand on est français, on est libre, on est autonome, on est souverain. Le peuple en est conscient. Le gouvernement, qui est un gouvernement d'occupation illégitime, n'en a rien à faire et fera tout ce qu'il peut pour étouffer et proscrire l'expression de la parole populaire, puisque cette parole a force de loi. Donc à nous de nous exprimer, de faire valoir notre parole pour faire tomber et mettre un terme à l'occupation ignoble et illégitime de ces gouvernements qui font le jeu d'un pays, d'un État, d'une entité qui est littéralement, effectivement, raciste, terroriste, et qui est en train de s'engager dans une voie génocidaire. Vous avez raison de désigner ce terme. Un génocide, ça désigne l'élimination systématique d'une catégorie de population clairement identifiée. C'est exactement ça qui se passe dans la bande de Gaza.
Merci beaucoup.
Et tout le monde en est conscient en France. Tout le monde.
Merci beaucoup. Arnaud Doblet, à vous, s'agissant, à part de ces frappes, ces bombardements militaires, on assiste à une guerre psychologique et une guerre médiatique contre le mouvement de la résistance palestinienne Hamas et les Palestiniens. On a eu hier une désinformation qui a été en fait démentie de la part d'une journaliste de CNN s'agissant de la décapitation des bébés, des enfants par le Hamas. La journaliste s'est excusée et l'a rectifiée. Également, de la part de la BBC, le ministre britannique de l'immigration a lancé lundi une attaque cinglante contre la BBC pour avoir refusé, je cite, de qualifier le Hamas de terroriste après son attaque contre Israël. Donc, est-ce qu'on assiste à une guerre qui est peut-être pire, une guerre psychologique pour démoraliser, pour décourager les Palestiniens?
Tout d'abord, je ne pense pas que quoi que ce soit puisse démoraliser les Palestiniens. Si c'était le cas, on le saurait depuis longtemps. Ça fait 75 ans que ça dure. Et la résistance palestinienne est disposée plus que jamais à défendre ses droits et à mettre sa vie en jeu si c'est ce que cela nécessite. Non, par contre, je voudrais revenir sur ce que disait M. Rouget. Il a tout à fait raison. C'est qu'en fait, il n'y a qu'un son de cloche qui est autorisé en Occident. Parce que bon, ça, c'est le cas à Paris, mais aussi le cas dans les autres capitales de ce qu'on dirait aujourd'hui l'Occident collectif. Et partant de là, s'il y a des reconnaissances que je me suis trompé sur l'histoire portant sur la décapitation des bébés, c'est parce qu'ils se sont fait attraper la main dans le pot de confiture, si je puis dire. Il y a ces commentateurs aussi américains, qui doit être aussi israélien, il doit avoir un passeport israélien, Benjamin Shapiro, qui a une chaîne YouTube qui fait quand même 6 millions d'abonnés, et il a mis en scène, je crois que c'était hier ou avant-hier, une version donc intelligence artificielle d'un bébé calciné, soi-disant israélien, et lui aussi s'est fait rattraper par la patrouille, si je puis dire. Donc, effectivement, on assiste à une espèce de surenchère, ça devient tellement grotesque que les gens ne peuvent que se poser des questions quant à pourquoi on ne peut même pas, évoquer ne serait-ce que la neutralité quelque part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, bon, faut le dire, ne sont pas forcément impliqués, enfin, concernés, hein, et malgré tout, ces gens-là, eux aussi sont sommés de prendre parti et de prendre parti pour, soi-disant, le camp du bien, ou comme diraient certains hauts responsables de ces derniers jours, le camp de la civilisation, voilà, c'est comme ça qu'ils se présentent. Et donc là, on s'aperçoit qu'en fait, même le narratif leur échappe quelque part, malgré tous les moyens dont ils disposent. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de guerre hybride depuis plusieurs années maintenant, et avec la technologie dont on dispose, les gens sont devenus eux-mêmes des citoyens journalistes et peuvent facilement mettre à mal la version mise en avant par les médias officiels.
Bien dit. À vous, Alexandre Roger, s'agissant de la lecture des lois internationales liées aux crimes de guerre, les droits de l'homme, la liberté de la presse, apparemment, il y a manifestement il y a une approche sélective de la part de l'Occident qui il y a une lecture intéressée, qui a une lecture intéressée par rapport de ses intérêts.
Mais c'est-à-dire que les dirigeants occidentaux ne comprennent que le droit du plus fort. Les droits de l'homme, ils en ont rien à foutre. La dignité humaine, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont eux-mêmes dans un état d'indignité, de déshonneur permanent. Ils sont à un niveau de conscience, d'humanité ou de citoyenneté qui correspond à celui d'un animal, je pense. Ils ne comprennent que la loi du plus fort, et c'est celui qui a le plus de moyens et de puissance, qui impose sa vérité à tout le monde. C'est ainsi que fonctionne l'Occident depuis toujours, et c'est de ça qu'il s'agit de sortir si nous voulons en finir avec cette barbarie institutionnalisée. Encore une fois, c'est le recours pour justifier ce droit du plus fort impose le recours à une rhétorique à base d'inversion accusatrice, mais qui frise effectivement, je ne sais même plus qui frise, qui est en train de sombrer dans un grotesque et dans un dérisoire inédit à l'échelle de l'histoire. Se qualifier soi-même de camp de la civilisation, quand on assassine des hommes, des vieillards, les femmes, les enfants, tous les jours, ce n'est même plus un mensonge, c'est une aberration, c'est une absurdité telle qu'au moment même où vous le dites, vous devriez vous écrouler de honte. On en est à un point où cette aberration devient intenable, et que les gens qui tiennent ce discours doivent mobiliser des ressources, pour le coup, psychologiques, qui frisent la performance sportive. Donc on en a un stade où la prochaine étape risque d'être tragique, puisque les Gazaouis ne quitteront pas la bande de Gaza. L'ultimatum israélien ne servira à rien, et dans ce bras de fer moral, j'ai envie de vous dire, les Palestiniens auront le dernier mot. Encore une fois, ils ont le droit et la légitimité avec eux. Et en face, la force ne pèse rien. Donc je ne sais pas à quoi on va assister, mais pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le double langage, l'hypocrisie, l'ignominie des Occidentaux éclate à la face du monde entier. Et si pour l'instant, nous n'avons que notre capacité d'expression et notre parole à exprimer pour nous opposer à cette violence et à ce déchaînement, eh bien, il faut le faire. C'est tout ce que nous avons, il faut le faire. Et en attendant que la parole juste, et que la vérité et que la justice, enfin, fassent force de loi. Et malheureusement, les Israéliens ne comprennent que la force, que le droit du plus fort. Donc tant qu'il n'y a personne pour leur imposer la justice par la force, eh bien, ils continueront leur génocide.
Arnaud Doblet, s'agissant de la situation hospitalière dans la bande de Gaza, les hôpitaux sont débordés. Les hôpitaux de la bande de Gaza sont un point de rupture. Et les informations nous font part de l'utilisation du bombe phosphore blanc qui est très catastrophique. Comment réagissez-vous ?
Oui, bah écoutez, ça s'inscrit dans ce contexte d'impunité institutionnalisée hein, pour le camp du bien. C'est-à-dire qu'en fait, les hôpitaux sont devenus des morgues puisqu'ils n'ont plus les moyens d'admettre en urgence les blessés qui pourraient s'acheminer. Et qui plus est, de toute façon, il n'y a plus d'électricité. Donc ceux qui sont déjà hospitalisés n'ont plus accès, s'ils ont besoin de machines ou de respirateurs, pour ne citer qu'un exemple. Donc c'est les condamnés à une mort certaine. Donc, et l'utilisation du phosphore blanc, il n'y a rien de nouveau. Déjà en 2008, durant l'opération Plomb durci, ça avait été utilisé. Donc il n'y a pas de... Il n'y a aucune limite. D'ailleurs, c'est les Israéliens eux-mêmes qui l'ont dit. Le gouvernement israélien a dit qu'il n'y a pas de limite. Et ils ont appelé à leur soldatesque, essentiellement, à faire tout ce qu'ils souhaitaient faire et qu'il n'y aurait aucune conséquence juridique quant à leurs actions. Donc, ces mots-là restent, hein, de même que les déclarations les premiers jours du ministre de la Défense sioniste qui porte sur l'animalisation des Palestiniens. Dans un tribunal international, ces propos vont ont vocation à revenir les hanter. Maintenant, je rejoins M. Rouget, c'est qu'effectivement, en droit international, c'est la force qui prévaut. L'équilibre entre des puissances de force égale est ce qui crée, ce qui cristallise des lignes de, si je puis dire, de cohabitation, peut-être pas idyllique, mais en tout cas imposée par l'état des forces en présence. Et j'ai bien peur que, à l'aune des circonstances encore un peu troublantes quant à les premières heures de l'opération du déluge d'Al-Aqsa, du côté israélien, quand on sait qu'ils disposent d'une technologie assez performante, et sur fond d'affaires concernant le Premier ministre Netanyahou, et partant du fait qu'il est quand même le fils de quelqu'un qui était le secrétaire particulier de Jabotinsky, dont on peut, si on se renseigne, on sait comment ces gens-là conçoivent l'exercice du pouvoir, je pense que tout ça, ça a été mis en avant de telle sorte qu'ils essayent de jouer l'escalade. Et là, l'arrivée presque coordonnée, spontanée d'un groupe aéronaval américain au large des côtes libanaises laisse entendre qu'il y a une coordination avec les faucons du département d'État. Ça a été d'ailleurs presque semi-officialisé par la visite de Blinken, qui a fait un discours, encore une fois, larmoyant en essayant de créer un système, une fausse équivalence entre la situation actuelle en Palestine occupée et le sort de son grand-père. Bref. Mmh. Donc on voit très bien où tout cela nous amène j'ai bien peur que les tambours de la guerre se fassent de plus en plus entendre, malheureusement. Mmh. Une guerre élargie.
J'espère que non. Alors... Et nous avons moins de 3 minutes devant nous. Et je crois qu'on va finir avec Alexandre Rouget. On assiste également à une fuite en avant des Israéliens et des alliés, des médias qui sont à leur solde, qui, en assimilant la résistance palestinienne à Daesh. Quand il s'agit d'un enfant palestinien, on parle d'un enfant d'un terroriste. Comment réagissez-vous ?
Mais je vais essayer de voir le bon côté de la chose. La fuite en avant et le mépris des limites, en général, sont les indices d'une certaine panique, d'un certain désarroi, d'une certaine incapacité à gérer une situation que l'on a soi-même créée. Et quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a aucun recours, quand votre parole n'a aucune valeur, vous n'avez plus le choix que d'insister encore plus et de continuer à bafouer la vérité, bafouer les limites, bafouer tout, pour simplement maintenir votre position acquise. Et en français, on a une expression pour ça, ça s'appelle « scier la branche sur laquelle on est assis », puisque plus les Israéliens continueront dans cette logique-là, plus ils seront haïs, méprisés et considérés par le reste du monde comme un ramassis de criminels et d'assassins sans foi ni loi, indigne à la face des hommes et à la face de Dieu, dont pourtant ils osent se réclamer, mais je gage que se réclamer de l'autorité divine quand on se comporte comme le dernier des assassins, ça ne marche pas. Donc nous en sommes, à mon avis, à une sorte d'accélération finale où les Américains, oui, les Israéliens sont dos au mur, et s'ils veulent s'en sortir, il va falloir qu'ils aillent au bout de leur logique, logique raciste, logique totalitaire, logique génocidaire. Et c'est à ça qu'ils semblent se préparer.
Merci beaucoup, Alexandre Rouget, écrivain et journaliste depuis Bugarache. Merci à vous aussi, Arnaud Dovelet, juriste en droit international et journaliste indépendant. Merci à vous, mesdames et messieurs, et merci de votre fidélité. Bonne journée.
Minute économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission et pour cette nouvelle édition de l'Afrique Économie depuis la capitale iranienne Téhéran et depuis Presse TV. Nous allons évoquer les dernières évolutions africaines en termes économiques dans cette émission. Restez avec nous. Au Burkina Faso, le régulateur suspend les nouvelles modalités applicables aux offres des opérateurs de téléphonie mobile. En juin dernier, le régulateur télécom du Burkina Faso a dévoilé de nouvelles modalités applicables aux offres des opérations du téléphone mobile. Conçues de concert avec les associations des consommateurs, les nouvelles mesures ont été rejetées par les sociétés de télécom. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Burkina Faso a annoncé en début de semaine la suspension des nouvelles modalités applicables aux offres permanentes et promotionnelles des opérateurs de téléphonie mobile entrées en vigueur le 13 septembre dernier. Cette décision fait suite au recours en annulation formulé par les trois opérateurs de téléphonie mobile auprès du Conseil d'État. Le Conseil d'État, dans sa décision rendue en matière de référé le 4 octobre 2023, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision en attendant de se prononcer sur les recours en annulation, a expliqué le régulateur dans un communiqué. C'est en juin dernier que l'ARCEP a dévoilé les conditions et modalités applicables aux offres permanentes et promotionnelles des opérateurs de services de téléphonie mobile au Burkina Faso. Les mesures comprennent notamment l'ouverture des bonus à tous les réseaux, le blocage temporaire plutôt que la suppression des crédits et forfaits non consommés à leur expiration, la déduction progressive des avantages en fonction du délai de validité le plus court et l'octroi d'un délai minimal de 30 jours pour les forfaits d'au moins 1 gig. La décision est basée sur des recommandations issues d'un atelier que le régulateur a organisé avec les associations de consommateurs en août 2022. Président de l'Afrique du Sud, l'Afrique doit s'éclairer pendant la transition énergétique. À l'heure où on impose la transition énergétique au continent africain, un pays comme l'Afrique du Sud n'exploite que 14 centrales au charbon, alors que la Chine a mis en service des dizaines de nouvelles centrales au charbon rien qu'en 2022. S'exprimant lors de l'Investing in Africa's Energy, le vice-président sud-africain Paul Machatil a déclaré que l'Afrique reconnaissait la nécessité de réduire les émissions de carbone, mais doit s'engager également pour son développement économique. Ce développement passe inévitablement par l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du continent, et cela durant même la phase de transition qui doit être progressive, selon M. Machatil. Le responsable indique également que le continent n'a pas à suivre un autre agenda que le sien sur cette question. Souvent, on nous donne des ressources ou de l'argent, et on nous dit que nous devons faire la transition dans un certain délai. Nous devrions refuser cela, nous devons être capables d'examiner nos propres besoins et de fixer nos propres échéances. En tant qu'Afrique, nous devons continuer à allumer la lumière pendant la transition, a-t-il déclaré. Pour rappel, l'Afrique du Sud est engagée dans un programme de transition énergétique financé à hauteur de 8,5 milliards de dollars par les pays riches. Le pays, dans le cadre du programme, est contraint à abandonner le charbon au profit des énergies renouvelables, alors même que son économie est plombée par un déficit électrique permanent.
Au Zimbabwe, le gouvernement annonce des progrès dans le dédommagement des fermiers blancs expropriés. Au début des années 2000, plus de 4000 grands propriétaires blancs avaient été expulsés manu militari de leurs terres dans le cadre de la réforme agraire lancée par l'ex-président Robert Mugabe pour corriger les inégalités héritées de la colonisation britannique. Le gouvernement zimbabwéen a enregistré des progrès dans le processus d'indemnisation des fermiers blancs qui avaient été expulsés de leurs terres sous le régime de l'ex-président Robert Mugabe, annoncé le ministre des Finances Thuli Kubé jeudi 12 octobre. Bien que le gouvernement n'ait pas été en mesure de respecter l'accord de 3,5 milliards de dollars conclu avec quelques 4000 fermiers blancs il y a 3 ans, certains d'entre eux ont accepté d'être remboursés en bons du trésor, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse sans plus de précision. En février dernier, le gouvernement avait proposé un remboursement des fermiers expropriés via des bons du trésor sur une période de 10 ans. Cette offre avait été alors rejetée par l'ensemble des fermiers concernés par le processus de dédommagement. Le gouvernement du Zimbabwe avait signé en juillet 2020 un accord avec les propriétaires blancs expropriés par les dédommager à hauteur de 3,5 milliards. Pour rappel, au début des années 2000, plus de 4000 grands propriétaires blancs du pays avaient été expulsés de leurs terres au profit de fermiers noirs dans le cadre de la réforme agraire lancée par l'ex-président Robert Mugabe, qui a été contraint de la démission en 2017. La réforme avait pour objectif affiché de corriger les inégalités héritées de la colonisation britannique, mais la redistribution des terres a surtout profité aux proches du régime et a allé à des fermiers sans équipement ni formation, provoquant un effondrement brutal de la production agricole et une grave crise économique qui a poussé Harare à interrompre le remboursement de sa dette aux bailleurs de fonds internationaux. Le Kenya négocie des prêts avec Afreximbank et Trade and Development Bank pour acheter 500 millions de dollars d'euros d'obligations. La première économie d'Afrique de l'Est est appelée à rembourser ou à refinancer ses euro-obligations arrivant à échéance en juin 2024, à un moment où la hausse des taux d'intérêt a exclu l'écrasante majorité des pays africains des marchés financiers internationaux. Le Kenya a entamé des négociations avec 2 banques régionales pour contracter des prêts qui serviront notamment à racheter jusqu'à un quart de son eurobond de 2 milliards de dollars qui arrivera à échéance en juin 2024, a rapporté Reuters ce jeudi 12 octobre, citant le gouverneur de la Banque centrale, Kamo Tugé. Nous sommes en pourparlers pour lever entre 500 millions et 1 milliard de dollars sous forme de prêts commerciaux auprès de 2 banques régionales, la Trade and Development Bank et la Banque africaine d'import-export, a déclaré M. Tugé en marge de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale du FMI à Marrakech. Nous en utiliserions une partie pour le rachat d'une partie de nos euro-obligations avant la fin de l'année en cours et le reste comme appui budgétaire, a-t-il ajouté. L'approche du Kenya en matière de remboursement de son eurobond de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en juin 2024 est suivie de près par les investisseurs étrangers. Le directeur de la gestion de la dette au ministère kényan des Finances, Aaron Sirima, avait révélé début octobre que le gouvernement kényan a engagé le groupe bancaire américain Citigroup et son homologue sud-africain Standard Bank pour le conseiller sur la gestion de cet eurobond. Parallèlement, le directeur du département Afrique du FMI, ABB, Aemro Selassie, a déclaré mi-avril qu'il ne s'attendait pas à ce que le Kenya demande la restructuration de sa dette au titre du cadre commun du G20 malgré les tensions actuelles et le remboursement imminent d'un eurobond.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de